from NPR News.
MCT Sandin the House.
Halia Radio Rosana Piperis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Baisse des subventions en France et pas seulement, bien sûr. Fin de l'aide à certaines ONG qui distribuent les antiviraux, par exemple. Et ça, c'est la spécialité notamment de l'Amérique de Trump. Crainte donc pour le dépistage, pour le vaccin, peut-être aussi à une autre échéance. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. En Ukraine, le business derrière les négociations menées par les USA, c'est le monde à l'endroit de Frédéric Seyss. Le reportage est au Venezuela, puisqu'on parle d'argent. Vous verrez que la petite stabilité financière obtenue par le mélange dollar-bolivar est en train de voler en éclats et le refuge, c'est quoi? Les cryptos.
Moi, je suis payée en bolivares. Je l'ai converti en USDT. Car si aujourd'hui, par exemple, j'ai été payée l'équivalent de 10 dollars, eh bien demain, je n'en aurai plus 8. Et après-demain, ce sera 7 dollars, etc.
Un reportage à découvrir autour de 18h42. Le Danemark n'aura bientôt plus de boîte aux lettres du tout. C'est sous les radars. Et Guillaume Audat est dans la BO du Monde. Cyril Sauvageau a mis la diva syrienne en exil. Asala Nasri rentrera-t-elle au pays pour y donner son premier concert depuis 15 ans? Vous le saurez juste avant 19h. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
The global response to HIV has suffered its most significant setback in decades.
C'est Winnie Byanyima qui parle, elle est directrice exécutive de l'ONU SIDA. Elle participait à une conférence à Genève, c'était tout récemment, le 25 novembre dernier, afin de présenter le rapport de l'Organisation pour la Journée mondiale de lutte contre le SIDA 2025. Je vais vous dire dans un instant ce qu'elle dit très exactement. Bonsoir Florence Viard.
Bonsoir.
Directrice générale adjointe de Coalition Plus, cette union internationale d'associations communautaires de lutte contre le VIH et aussi contre les hépatites d'ailleurs. On ira au Honduras également au cours de cette conversation. Vous verrez ce que donnent les coupes drastiques. La phrase de Winnie Byanyima, c'est: la lutte mondiale contre le VIH subit son revers le plus important depuis des décennies. Les mots ont un sens. Est-ce que vous signeriez cette phrase, vous aussi, Florence Viard? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Un retard colossal depuis des décennies?
Ah oui, je la signe absolument des deux mains. On est face à un risque majeur de reprise de l'épidémie. Je pense que c'est la première fois depuis 40 ans et la découverte du virus qu'on recule en fait en matière de lutte contre le sida, alors même qu'on a aujourd'hui tous les moyens entre les mains en termes de traitement et en termes de prévention pour mettre fin à l'épidémie.
On recule, on va y venir, hein, parce que quand les crédits reculent, ça veut dire pouvoir soigner ceux qui sont atteints, et comme vous le dites, on sait aujourd'hui comment soigner beaucoup de gens, et ça parle aussi de recherche, donc il y a deux volets qui peuvent être terribles. On parlera des États-Unis parce que c'est l'exemple emblématique, mais enfin, disons-le quand même, si on regarde un peu devant notre porte et qu'on balaye un peu, la France n'a pas encore donné le montant de sa contribution au Fonds mondial contre le sida. J'imagine qu'on le fera, mais c'est le signe de quoi, quoi? Ou peut-être pas d'ailleurs, non? Vous avez cette crainte ou on va le faire?
Non, j'ose pas l'imaginer. Voilà. J'ose pas imaginer.
Mais c'est le signe de quoi, à votre avis? Ça dit quoi quand on prend plus de temps qu'on en prenait habituellement?
C'est un signe possiblement d'une baisse drastique de la contribution de la France au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Donc c'est ce contre quoi on lutte en ce moment. Je vois pas. On nous dit aujourd'hui qu'il faut attendre la fin de l'exercice budgétaire pour annoncer cette contribution. Ouais. Je vois pas très bien ce que ça permettrait d'attendre. Jusque-là, en fait, les présidents de la République annonçaient la contribution au mois de juillet, au mois de septembre, et ça se passait très bien. C'est une décision qui appartient au président de la République, qui fait partie de la politique étrangère de la France. Donc, c'est pas un très bon signe, en effet.
Le symbole, il est d'autant plus important. Enfin, on le sait quand même. Hein. Nous, en France, la lutte contre le sida, c'est un truc qui est important. Françoise Barré-Fine aussi, le professeur Montagnier, c'est des prix Nobel. Ces gens, c'est eux aussi qui ont participé à cette lutte-là. Est-ce que vous diriez, alors, la raison budgétaire, puisqu'on n'a pas fini l'exercice, on peut entendre un certain nombre de choses comme ça, pourquoi pas, mais est-ce que vous avez la crainte d'un désintérêt pour la cause derrière, en fait, tout simplement?
Oui, exactement.
Un désengagement, en fait.
Oui, oui, c'est exactement ce qu'on craint. Alors, vous avez parlé de Françoise Barré-Fine aussi, bien sûr, mais la classe politique française, les différents présidents de la République depuis 20 ans ont été des leaders en matière de santé mondiale. Le président Chirac sur la création du Fonds mondial. Ensuite, on a créé des taxes solidaires qui permettent notamment de financer l'aide en santé. Taxes sur les billets d'avion, sur les transactions financières. Et le président de la République actuel, Emmanuel Macron, a été extrêmement dynamique en matière de santé mondiale. Donc là, en effet, l'absence d'annonce à la conférence de reconstitution du Fonds mondial, c'est une vraie rupture. avec la politique française. Et c'est ça qui nous fait extrêmement peur, d'autant que la conférence de reconstitution, globalement, n'a pas été à la hauteur des enjeux. On attendait 18 milliards, il en fallait 12 minimum pour maintenir les traitements, et on est à 11,5. Donc ce type d'absence d'annonce, comme celle de la France ou comme celle de l'Union européenne, vont avoir un impact majeur sur la vie de millions de gens. En fait.
On ne va pas être cynique, hein, Florence Gière, mais ça veut dire que quoi ? C'est plus vendeur de donner de l'argent pour le sida, disons les choses clairement.
Ah oui, peut-être que c'est plus vendeur, mais là, les projections qu'on a aujourd'hui sur... Si les coupes restent en l'état, on a des projections qui font froid dans le dos. Jusqu'à 4 000 contaminations supplémentaires, 4 millions de contaminations supplémentaires, 2 millions de décès supplémentaires, peut-être que c'est plus vendeur. Mais enfin, les gens qui vont se contaminer ou qui sont malades et qui n'auront plus accès au traitement, la fin de l'exercice budgétaire de la France, c'est pas vraiment leur sujet. Quoi.
Le coup de Trafalgar, si je puis dire, a commencé avant cela. Il a commencé quand les États-Unis ont annoncé qu'ils coupaient à peu près 92% des finitions d'USAID, ce qui est absolument colossal. On va appeler un chat quand il n'y a plus d'accès au traitement, parce que c'est aussi assez à ça que sert USAID, c'est emmener des traitements dans des zones où on ne va pas les chercher. Ça veut dire, quand on n'a plus accès, ça veut dire qu'on meurt. Est-ce qu'on peut déjà chiffrer, d'ailleurs ? Est-ce qu'on peut déjà dire des gens qui meurent faute de soins uniquement parce qu'ils n'ont plus accès à ce qui pourrait les sauver. Ça se chiffre déjà, ça, ou pas ?
Oui, bah, les projections dont je vous parle, alors il y en a plusieurs qui circulent, mais c'est à peu près ces chiffres-là. Dans les 5 ans qui viennent, on estime à des millions de morts supplémentaires dues à ces coupes, qui sont les coupes américaines, mais beaucoup de grands États européens donateurs ont emboîté le pas aux États-Unis. La France a coupé, si on ne parle pas que du sida, 40% de son aide publique au développement. On peut en penser ce qu'on veut de l'aide publique au développement, mais c'est un vrai choix politique. Et en effet, ça va avoir un impact. On voit déjà moins 40% de dépistage dans le monde en juillet, entre janvier et juillet. Moins 20% d'initiation au traitement. Donc les chiffres, ils sont déjà là. Et l'épidémie, on va la voir repartir très, très rapidement.
Est-ce que ça veut dire que... j'imagine qu'après, on ne remet pas le temps d'y friser dans le tube. Hein. En temps, on perd combien de temps ? Voyons le verre à moitié plein. Imaginons que l'argent finira par arriver. Peut-être même qu'à un moment, les États-Unis seront différents. Est-ce que ce qu'on perd là, on le perd définitivement ? Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait ?
Je ne sais pas si on peut chiffrer les années perdues, mais vous avez tout à fait raison. La lutte contre les épidémies, c'est une course contre la montre. Donc, plus on a de nouvelles infections, plus on retarde la victoire contre l'épidémie. Donc, en effet, on ne remettra pas le dentifrice dans le tube, on rattrapera pas les années gagnées, et on avait un objectif de fin de l'épidémie en 2030, on n'y sera pas. Non seulement on n'y sera pas, mais on aura une reprise de l'épidémie. On voit dans certains pays des scènes qui nous rappellent des années en arrière.
La non-fin de l'épidémie, si je puis dire, la reprise des contaminations, ça aussi, on se dit que dans le temps, c'est pas seulement l'accès au dépistage, c'est avoir amené des populations à accepter de se dépister, ça a pris un temps absolument considérable. Est-ce que, comme pour tout dans ces cas-là, essayer d'y retourner, si à un moment elle s'arrête, essayer d'y retourner, ça va être recommencé quasiment à zéro pour convaincre les gens d'aller se dépister? Est-ce que vous le savez déjà, ça, ou pas?
Oui, ce qu'on voit notamment très clairement, c'est que les personnes qui étaient sous PrEP, donc c'est-à-dire cet outil de prévention qui permet aux personnes qui ne sont pas malades, mais qui sont exposées à des risques infection à VIH, d'être protégées, ces personnes-là qui étaient dans ces programmes de prévention sont aujourd'hui dans la nature, dans énormément de pays, dans énormément de programmes. Donc ces personnes-là, pour ensuite aller les retrouver et les remettre vers le soin, ça va être extrêmement compliqué. Et on parle de personnes qui sont des hommes homosexuels, des usagers de drogue, des travailleuses du sexe, qui ne sont pas les personnes les plus faciles à atteindre avec le soin dans des contextes où ces gens-là sont criminalisés.
Oui, on va y venir à ça. Effectivement, on parle beaucoup de l'Afrique quand on parle de difficultés de prévention, de dépistage, d'accès aux soins. Ce continent n'est pas le seul. Loin s'en font. Nous allons donc aller au Honduras. 2 800 000 personnes contaminées dans la totalité de l'Amérique latine. Certains pays dépendaient intégralement des aides états-uniennes. C'est donc le cas du Honduras. Et c'est Marie-Aimée Copleutre qui nous en parle.
Dans le hall de l'hôpital, une dizaine de patients attendent debout leur consultation gratuite, dont Miguel. Diagnostiqué il y a 25 ans, il doit désormais débourser 900 euros par mois pour son traitement, soit deux fois le salaire moyen au Honduras.
Quand j'ai été diagnostiqué, j'avais un travail et je pouvais payer. Mais une fois que j'ai perdu mon travail, je n'ai pas pu payer les coûts des traitements.
Supprimer également l'aide du programme alimentaire mondial de l'ONU qui fournissait des repas complets aux patients les plus pauvres, leur permettant de mieux supporter le traitement.
Du riz, de l'huile, des haricots, j'ai pu avoir ces aliments, bénéficier du programme et ma tolérance au traitement s'est améliorée, ainsi que mon alimentation.
30% de fonds en moins, selon Déborah Valerio, elle est médecin et dirige l'Association nationale de lutte contre le VIH.
Il y a un retour en arrière. Des personnes qui prenaient leur traitement depuis des années et des années doivent l'abandonner et leur état de santé se dégrade fortement. Alors elles arrivent à l'hôpital dans un très mauvais état, presque mourantes.
Un secteur de la santé en alerte, la vie des 40 000 patients honduriens est menacée.
Marie-Aimée Copleutre, pour le reportage, merci beaucoup. Florence Giard, il y a l'accès aux médicaments, l'accès au dépistage, on parlait, puis la recherche aussi. Jusqu'à quel point ces coupes budgétaires touchent aussi la recherche. Enfin, on a beaucoup imaginé qu'un vaccin était possible à une échéance, pas demain, pas après-demain, mais 2030, 35, 40, j'en sais rien. Est-ce que ça aussi a reculé d'autant ou pas?
Alors, sur la recherche, oui, il y a eu des coupes, notamment pour les chercheurs américains, c'est terrible. Ce qu'on voit aussi, indépendamment des financements, c'est une forme d'autocensure. C'est-à-dire que quand on parle de lutte contre le sida, on doit parler d'homosexualité, on doit parler d'injection, de drogue, etc. Et en fait, on voit que les chercheurs ont peur aujourd'hui d'aller sur des projets de ce type-là.
Vous parlez des chercheurs américains ou pas seulement ?
Des chercheurs américains et d'autres pays dans lesquels c'est assez sensible aujourd'hui de parler de ces sujets. Et donc, on va voir un recul en fait, de la recherche sur ces sujets-là. Du fait d'une autocensure en fait des chercheurs. Le vaccin, il est en effet pas pour après-demain. Aujourd'hui, il est pas au point. Il y a quelques cas de rémission, mais qui peuvent pas être produits à l'ensemble des personnes séropositives. Le sujet, c'est les innovations en matière de prévention, notamment la PrEP et bientôt la PrEP injectable deux fois par an. Ça va arriver.
Lenacapavir.
Lenacapavir, ouais. Exactement, qui va arriver dans un an, $40 par an en générique. Si on a les moyens de permettre la mise à disposition de cet outil de prévention au plus grand nombre, on a les moyens de faire baisser drastiquement les contaminations. Donc l'enjeu, il est là en fait en termes de mise à disposition des outils qui existent et qui sont extrêmement efficaces.
On a beaucoup entendu, et je crois d'ailleurs que c'est Françoise Barré-Sinoussi aussi qui l'avait dit assez explicitement, qu'on pouvait imaginer avoir l'espoir d'une génération sans sida, grâce à ce que vous dites en fait. Est-ce que ça vous le gardez quand même? Il y aura une génération sans sida? Ou est-ce que ça aussi, comme la prévention, comme le dépistage, comme la recherche, est en train de reculer de trois cases, voire plus?
Oui, on est en train de reculer, mais on va finir par y arriver. Parce que tout est là, en fait. C'est juste que le timing de ces coupes, il est dramatique. On n'a jamais eu des outils efficaces et on n'a jamais eu une aussi grosse baisse de financement. C'est ce timing-là qui ne va pas. Mais on va finir par y arriver.
Après, il y a quelque chose que vous avez évoqué, et ce sera ma dernière question, c'est la guerre culturelle qui va avec. Si aujourd'hui, on ne travaille plus sur ces questions, en effet, comme vous dites, c'est la maladie, c'est sale, on est revenu à cette bonne vieille histoire d'homosexuel dont on pensait qu'elle était oubliée depuis la fin des années 80. En effet, les drogués, les prostituées, etc. Jusqu'à quel point ça joue, ça, la guerre culturelle est rentrée dans la lutte contre le sida aujourd'hui, à votre avis?
Elle est rentrée depuis des années. Hein. Oui, elle est rentrée depuis des années.
Des années, vous voulez dire avant Trump?
Oui. Les mouvements anti-genre, anti-choix, anti-droit ont un impact sur la santé publique, hein, ça c'est absolument certain. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce sont les associations qui ont accès à ces personnes qui sont les plus vulnérables à l'épidémie. Et donc le sujet, il va être beaucoup aussi sur la survie de tout le milieu associatif pour permettre de garder le contact avec ces personnes qui sont les plus vulnérables et qui sont les plus discriminées dans les pays.
Allez, Florence Giard, essayons d'être optimiste. Pour la suite, vous êtes directrice générale adjointe de Coalition Plus, l'Union internationale d'associations communautaires de lutte contre le VIH et les hépatites. Merci beaucoup de votre passage chez nous. La suite, ce soir, c'est Le Monde à l'endroit. C'est vous, Frédéric Saïs.
Bonsoir Fabienne. La guerre en Ukraine est-elle un business comme les autres?
Allez, juste après ça.
Dreams, there's nothing dream-like about it. Oh no.
S'appelle Bar Italia, je crois que c'est des Anglais en fait. Fundraiser, c'est le titre, et c'est dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, et Frédéric Seitz.
Fabienne Saintès. Le 18-20.
Et Frédéric, dans le dossier ukrainien, les diplomates ont-ils perdu la main au profit des businessmen?
Deux images, deux lieux, Fabienne, pour répondre à cette question. D'abord, le palais de l'Élysée, cet après-midi, où Emmanuel Macron a reçu Volodymyr Zelensky. À l'issue de leur tête-à-tête, les deux hommes ont appelé un responsable américain, un seul. Ce n'est pas Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères, comme on pourrait s'y attendre, mais c'est Steve Witkoff, le promoteur immobilier devenu émissaire de Donald Trump. Witkoff doit s'envoler ce soir pour Moscou, où il rencontrera demain Vladimir Poutine. Autre image, autre lieu. Hier, en Floride, le même Steve Witkoff a convié les négociateurs ukrainiens dans son club de golf, un sport qu'il pratique régulièrement aux côtés de Donald Trump. Witkoff qui reçoit chez lui, ce qui a obligé le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, à se déplacer pour pouvoir assister à cette réunion. Voilà qui dit tout de la hiérarchie invisible au sommet du pouvoir américain.
Donc le businessman au-dessus du diplomate, hiérarchie assumée par Donald Trump.
C'était d'ailleurs il y a 6 semaines après le cessez-le-feu à Gaza, discours triomphal du président américain qui remercie longuement son émissaire Steve Witkoff. Il faut attendre une dizaine de minutes pour qu'il cite enfin le nom de son ministre Marco Rubio. Puis, lorsque Donald Trump évoque la Russie, c'est à nouveau vers Steve Witkoff qu'il se tourne avec ce compliment assez déroutant. En fait, je vous cite Donald Trump. Quand je l'ai nommé comme émissaire, Steve ne connaissait rien à la Russie ni à Poutine, mais il était très doué en immobilier et c'est un excellent négociateur. Voilà le CV parfait selon Donald Trump. Pas besoin de savoir, mais besoin de savoir-faire.
Alors, de fait, les négociations entre Washington et Moscou dépendent largement de deux hommes d'affaires.
Oui, côté russe, l'alter ego de Steve Witkoff, ce n'est pas un promoteur, mais un banquier. Kirill Dmitriev, ce très proche de Vladimir Poutine, dirige le fonds d'investissement public. Il est diplômé d'Harvard et de Stanford, prestigieuse université américaine. Et les deux hommes voient bien au-delà de l'Ukraine. Comme le raconte le Wall Street Journal, ils œuvrent ensemble à un rapprochement économique entre la Russie et les États-Unis. Discussion autour notamment de l'exploitation de pétrole et de gaz dans la région arctique. C'est le russe Dmitriev qui le confirme au quotidien financier. Witkoff, l'américain, renchérit, je cite, « Si chacun y trouve son compte, alors cela sera un rempart contre de futurs conflits. » Autrement dit, le commerce qui génère la paix. Witkoff reprend ici la vieille théorie de Montesquieu. Qu'importe si l'Ukraine est sacrifiée au milieu. Le plan de paix Trump, soufflé par Steve Witkoff, prévoit d'ailleurs la création d'un fonds d'investissement russo-américain. Avec ce plan, il ne s'agit pas de paix, mais de business, a pesté le premier ministre polonais Donald Tusk, qui est pourtant d'ailleurs peu suspect d'être anti-américain primaire. Alors vous connaissez le mot de Clémenceau, la guerre est une chose trop grave pour être confiée à des militaires. Certes, mais pour autant, la guerre, faut-il vraiment la confier à des businessmen?
Merci beaucoup Frédéric Seitz. À demain, le reportage. Le reportage qui est au Venezuela ce soir, où après quelques années de calme relatif, le climat économique se dégrade de nouveau avec une inflation à 3 chiffres et la monnaie officielle, le bolivar, qui se dévalue chaque jour un peu plus. Aujourd'hui, le pays vit dans un système double non officiel. Tous les prix sont référencés en dollars et le consommateur peut payer en dollars ou en bolivar. Cette décision des autorités d'accepter l'usage du dollar avait créé de la confiance chez les consommateurs et la monnaie nationale s'était un peu stabilisée. Mais depuis, nouvelle sanction américaine, je ne vous apprends rien, besoin de thésauriser pour les autorités et donc un dollar en liquide qui se fait rare. L'équilibre précaire qui avait donc été atteint s'effondre. Pour les Vénézuéliens, la solution ce sont les crypto-monnaies et le reste c'est Alice Campagnol qui raconte.
Le dentifrice c'est par là,
Ici, il y a le shampoing. Il est à 3814 bolivares.
Andrea, 30 ans, est venue faire ses courses dans un supermarché de Caracas. La jeune femme additionne les prix et elle a besoin de 6047 bolivares exactement, qu'elle n'a pas pour le moment, car son argent, elle le garde en USDT, une crypto-monnaie dite stable. Un USDT vaut à peu près 1 dollar américain. Elle va donc changer ses USDT en bolivares avec un particulier via une plateforme en ligne.
J'ouvre mon application. Alors les 6047 bolivares, ça fait 17 USDT 95. Donc je clique sur réaliser la transaction et maintenant j'attends quelques minutes, le temps que la personne m'envoie les bolivares sur mon compte en banque.
Ok.
Ça y est, j'ai reçu la notification, j'ai mes sous. C'était aussi simple que ça.
Les courses sont payées et Andrea est loin d'être une exception. Ici au Venezuela, c'est normal de jouer avec les monnaies, de faire des calculs et d'avoir à s'organiser pour ne pas perdre son pouvoir d'achat.
Moi, je suis payée en bolivares. Alors pour éviter la dévaluation, je l'ai converti en USDT. Car si aujourd'hui, par exemple, j'ai été payé l'équivalent de 10 dollars, eh bien demain, je n'en aurai plus 8. Et après demain, ce sera 7 dollars, etc. Le fait de changer mes bolivares en une autre monnaie, avec mon application, c'est vraiment très simple, vous l'avez vu.
Il existe un taux officiel du dollar imposé par la Banque centrale et un taux parallèle, le dollar du marché noir, actuellement de 40% plus élevé. Car des dollars au marché officiel, on en trouve peu. Alors, pas le choix quand il faut acheter de la devise. Eh bien, les Vénézuéliens se tournent vers le marché parallèle et achètent leurs dollars plus cher. L'année 2025 devrait se clore avec un taux d'inflation de 500%. Alors, tous cherchent des solutions et certains sont venus les trouver à l'Université catholique de Caracas où s'est créée une académie des cryptos, la Blockchain Academy. Ici, des économistes et des experts en crypto-monnaie sont venus aujourd'hui présenter l'USDT, la fameuse crypto-monnaie stable qu'utilise Andrea. Le public est composé, dans sa grande majorité, de commerçants traditionnels, des quincas et des sexagénaires comme José Rafael.
Je suis là pour apprendre de cette nouvelle monnaie virtuelle. En fait, vous savez, ce pays est trop instable économiquement. Et dans mon commerce, nous touchons l'argent en dollars, mais en ce moment, les gens n'arrivent pas à en trouver.
Alexis Lugo est professeur à la Blockchain Academy.
Si on remonte à 2017, à l'époque au Venezuela, nous avions un usage plutôt personnel des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, ça change. Comme le client, le consommateur final, utilise massivement les cryptos, eh bien le commerce de détail veut pouvoir les utiliser comme moyen de paiement. Ça y est, beaucoup d'entreprises sont prêtes à utiliser les crypto-monnaies, notamment les pharmacies, les supermarchés.
Aujourd'hui, le Venezuela, toujours instable monétairement, est au 13e rang mondial en termes d'adoption des crypto-monnaies.
Alice Compagnol pour le reportage. Alice, merci beaucoup et à très vite. La suite ce soir, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Guillaume Audin.
Sous les radars au Pérou qui surveille son voisin chilien comme le lait sur le feu et ferme sa frontière.
Et la BO du monde, Cyril Sauvageau.
La Syrie espère le retour de sa diva en exil, la chanteuse Asala Nasri.
Allez, ne bougez pas les amis, le tour de la planète continue avec une petite pépite que j'adore, le Summertime de Janis Joplin. C'est le choix musical de Djoubaka.
Baby, 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 baby.
Le Summertime de Janis Joplin sur France Inter. Comment passe-t-il sous les radars, Guillaume Ogda ? En souplesse.
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a mis en place une commission d'enquête qui passera en revue tous les aspects du match pour soutenir les responsabilités.
Guillaume, ça c'était il y a un an, la promesse du Premier ministre guinéen, après qu'un match de foot a viré au drame. Et un an plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Cette commission, rien donné.
Or, ce fut sans doute l'une des pires catastrophes de l'histoire mondiale du sport. Une bousculade meurtrière au sortir d'une finale entre deux équipes. Ça s'est passé à Nzéré Corée, deuxième ville de Guinée. Pour se figurer les choses, faut imaginer un stade vétuste, bondé, chauffé à blanc par une décision contestée. Et puis, des projectiles qui volent avec, pour protéger deux ministres présents, des policiers qui répliquent à la lacrymo directement dans les tribunes. Il n'y a qu'une sortie, le bilan est effroyable. 56 morts, chiffre officiel, très largement minimisé. Une ONG locale a enquêté, elle estime qu'au moins 140 personnes ont péri. Des forces de sécurité ont été vues ce jour-là embarquer des dépouilles. De nombreuses familles n'ont jamais pu enterrer les corps de leurs défunts. Elles ont porté plainte, mais un an plus tard, en effet, ni la justice ni le gouvernement guinéen n'ont daigné faire le point.
Et oui, bonne question. Qu'est-ce qui se passe à la frontière entre le Pérou et le Chili ?
État d'urgence, tout simplement. C'est ce qu'a décrété le président péruvien. Police et armée sont mobilisés pendant 2 mois, 60 jours. Plus personne ne passe sans montrer patte blanche, c'est-à-dire sans certificat de travail ou de résidence. Pourquoi ? Bien parce que le président péruvien, comme tout le monde d'ailleurs en Amérique latine, suit de très près la présidentielle qui se déroule en ce moment au Chili. C'est juste en dessous du Pérou. Le second tour a lieu le 14 décembre prochain. Il devrait consacrer la victoire du candidat d'extrême droite, José Antonio Kast. C'est le grand favori. Il a placé l'immigration au cœur de sa campagne et dans la veine des populistes qui s'emparent du pouvoir dans toutes les démocraties. Lui aussi, il a promis d'expulser des migrants par trains entiers, 330 000 Vénézuéliens, lesquels anticipent et se ruent désormais à la frontière. Sauf que le Pérou est incapable d'absorber une telle masse d'hommes, de femmes, d'enfants qui craignent la répression chilienne. Il faudra suivre avec beaucoup d'attention cette élection. Elle aura de lourdes conséquences aux frontières, celle du Pérou, on en a parlé, mais aussi celle de Bolivie et d'Argentine.
Voilà encore une bonne question, et c'est vrai ça. C'est quand la dernière fois que vous avez envoyé une lettre par la poste,
et vous, Fabienne,
Guillaume ?
Et vous ?
Carte postale ou deux quand même,
ouais,
pour jouer chaque
quand,
été.
Mais quand chaque été.
Ouais, à peu près.
L'été dernier. En tout cas, aujourd'hui, on est le 1er décembre. Ça vous aura pas échappé. C'est la saison des agapes, la saison des grelots, la saison des cartes de vœux. Eh bien, au Danemark, c'est fini. Der Erthlut, comme on dit là-bas, une à une, les jolies boîtes rouges siglées d'un corps de poste et d'une couronne sont démontées les unes après les autres. Il y en a 1500 à travers le pays. L'opérateur historique PostNord acheminera son tout dernier courrier le 30 décembre prochain. Premier pays d'Europe à sauter le pas. 4 siècles d'histoire. Voilà, balayé là-bas. Le volume s'est effondré de 90%. La faute aux méchants emails. Je parie que d'ici à la fin du mois, tout le Danemark va écrire sa lettre au Père Noël.
Oui,
c'est sûr.
C'est la dernière.
Vous aussi, vous allez aller au Danemark en envoyer une.
Bien sûr.
Et chez nous, eh bien, les boîtes postales jaunes, celles qui fleurent bon les films d'Éric Rohmer, elles disparaissent petit à petit, mais moins rapidement parce qu'on continue à s'envoyer des lettres d'amour ou de rupture. Vous choisissez votre camp. La Poste prévoit de traiter encore 3 milliards de missives par an en 2030.
J'y crois pas une demi-seconde aux lettres d'amour et de rupture.
Ah bon ?
Ça marche par SMS, ce genre de truc maintenant. Et c'est terrible. C'est absolument terrible. Guillaume Audin, merci beaucoup. À demain. Allez. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute la musique que fait la planète en tournant. Et c'est la BO du monde.
France Inter. Le 18-20.
Et la BO du monde ce soir, Cyril, en Syrie, avec une grande dame de la chanson arabe qui s'appelle Asala Nasri, et peut-être bien de retour au pays.
Le public syrien en a rêvé, voir sa plus grande star, Asala, revenir sur scène après 15 ans d'exil. Ce n'est pas encore fait, on va le voir, mais le symbole serait très fort au moment où la Syrie s'apprête à commémorer le premier anniversaire de la chute de Bachar al-Assad. Allah, 2011, au début de la révolution syrienne, Asala est déjà l'une des chanteuses les plus populaires du monde arabe, avec 20 ans de carrière à son actif. Et dès le début des manifestations, elle prend fait et cause pour les rebelles face au régime de Bachar. Elle enregistre notamment cette chanson en solidarité avec les victimes de la répression. لا تقول ما عندك علم لما الجرح علم بدي بصراحة انصحك. Son engagement va pousser Asala à fuir son pays natal. En 2014, elle est arrêtée et brièvement détenue à l'aéroport de Beyrouth sur des accusations de lien avec Israël. Rebelote en 2017, son public en est convaincu. Asala est pourchassée par le régime de Damas qui rêve de faire taire cette voix un peu trop populaire.
Et puis, Cyril, Asala a continué sa carrière depuis l'Égypte où elle vit désormais.
Installée au Caire avec ses enfants, elle continue d'enregistrer, de donner des concerts dans des salles prestigieuses, notamment dans les pays du Golfe, ici à Riyad, en Arabie Saoudite. Mais les années de guerre civile en Syrie ont considérablement contrarié la carrière internationale de la chanteuse, qui a dû se résoudre à limiter ses déplacements, à éviter certains pays. Pourtant, sa popularité reste intacte dans toute la région. Asala Nasri a notamment sa propre émission télé à Dubaï, émission où elle reçoit ses invités, comme s'ils venaient lui rendre visite dans son salon au Caire, et avec qui elle pousse volontiers la chansonnette.
Cyril, avec la chute du régime de Bachar el-Assad, un nouveau chapitre donc de sa carrière est peut-être en train de s'ouvrir.
Avec de nouvelles perspectives de tournée, Asala fera d'ailleurs son grand retour à Paris en 2026 avec un concert prévu le 25 avril au Palais des Sports. 20 ans après son dernier concert parisien, la diva va donc renouer avec les scènes européennes alors que ses derniers enregistrements en date explorent des sonorités plus modernes, voire un peu clinquantes, comme ici son nouveau single « By Elzen ». La prochaine étape pourrait donc être l'annonce d'un retour à Damas pour un concert événement qui serait le premier depuis 15 ans sur le sol syrien. L'entourage de la chanteuse y travaille, dit-on, en lien avec le syndicat des musiciens syriens. Mais au-delà des questions de sécurité, il semble que ça coince sur le plan contractuel entre les autorités syriennes qui souhaitent organiser un concert gratuit et sa société de production qui détient l'exclusivité de ses apparitions sur scène. Les fans syriens vont donc sans doute devoir prendre leur mal en patience avant de la revoir en chair et en os.
Thank you.
Cyril Sauvageau, merci beaucoup. À lundi prochain, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec François Geffrier, puis il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Est-ce que vous avez quelqu'un?
C'est Céline Asselot, 19h, c'était perturbé.
Ah, c'était Céline,
oui, c'est Céline qui arrive, mais c'est pas grave.
Il a beaucoup changé, François Geffrier. Est-ce que vous avez calculé votre retraite, chef?
Non, mais le patron Nadir Carco est là ce soir avec nous pour répondre à toutes vos questions simples comme celle de Benoît. Est-ce que les périodes de chômage sont prises en compte? Ou celle de Anne? J'ai commencé ma carrière dans le secteur privé, mais depuis 2016, je travaille dans la fonction publique hospitalière. Je suis fonctionnaire titulaire. Lorsque je vais demander ma retraite, je dois passer par mon bureau RH, mais est-ce que je dois aussi faire des démarches particulières pour la partie de ma carrière dans le privé?
01 45 24 7000 pour discuter avec nous, c'est le même numéro par WhatsApp. Tiens, voilà François Geffrier qui vient d'entrer déguisé en Céline Asselot. À tout de suite.